Radio éphémère 89.1 MHz.
CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, des glitches visuels, un grand jeu IKEA, du deepfake d'actualité et l'absence de toute limite. Notre invité est Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur IA. L'équipe aujourd'hui d'Askritch. Et silence les smartphones, ça tourne.
CPU, carré et petit utile.
Monsieur Cruz, bonjour.
Bonjour Dasrich.
Pourquoi un métier artisanal comme le cinéma est en train de basculer très rapidement vers l'IA ? À quel prix et à quel risque ? Des images de documentaires ou glitch voulus par un réalisateur de publicité, ce que l'on peut et peut-être ce que l'on ne doit pas faire. Nous cherchions à connaître le point de vue d'un réalisateur qui a eu une longue expérience dans l'audiovisuel, qui connaît les méthodes traditionnelles et qui est passé du côté production par IA générative. Non, attends, je vais le refaire. Production par IA générative. Côté obscur, forcément. Nous avons le plaisir de recevoir en chair et en os Jean-Louis Cruz, réalisateur de films publicitaires, formateur en IA générative, membre fondateur de la représentation à Toulouse de l'ANIA, l'Association Nationale de l'Intelligence Artificielle, à ne surtout pas confondre avec Jean-Louis Demian. C'est toute une époque. Et fut mon réalisateur télé pour des émissions et publicités, c'était il y a plus de deux décennies. Ceci est la seconde partie de l'interview, la première partie a été diffusée la semaine dernière. L'intégralité de l'interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm/240.
CPU, carré et petit utile.
Monsieur Cruz, on l'a bien compris, la boîte de Pandore est ouverte, l'IA générative cavale dans le monde, mais du coup, tu perds la part d'improvisation d'un acteur, son jeu, les incidents heureux de plateau et le bonheur d'aller tourner sur les plages des Caraïbes ou de se triturer la tête pour réaliser mieux avec les moyens du bord un plan qui ne peut être fait. N'est-ce pas frustrant de ne plus avoir de limites ?
Alors, c'est frustrant de ne plus avoir d'équipe pour moi. Toutes les personnes avec qui je travaillais et je continue à travailler, mais de manière beaucoup plus épisodique. Mon équipe, elle a été constituée il y a au moins 15 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai, je travaille tout seul chez moi, devant mon ordinateur, et que les échanges humains sont extrêmement enrichissants et tout. Avant, j'avais un vrai échange, alors qu'aujourd'hui, ben, je travaille sur des projets où je suis tout seul. Après, alors ta question, c'était n'est-ce pas frustrant de ne plus avoir de limites ? Je dirais c'est pas faux, effectivement, parce que souvent le fait de pas avoir de moyens, ça suscite l'imagination et trouver des plans A, B, C, D, du bricolage et tout ça. Il y a ce côté Michel Gondry, justement, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Effectivement, l'IA, il y a nos limites et oui, c'est pas faux ce que tu viens de dire. Je me suis pas posé la question, mais tu as raison, effectivement.
Et t'as pas peur du syndrome George Lucas? Je veux dire, sur la trilogie Star Wars qu'il a faite durant les années 2000, où il était seul aux manœuvres, il avait que des yes-men autour de lui, et finalement, personne n'osait lui dire que Jar Jar Binks, c'était de la merde.
Ben, oui. Oui.
C'est brutal comme
non,
image.
Non, mais tu as raison.
C'est
raison.
Ça, c'est l'effet citadelle. Est-ce que c'est pas un risque, finalement, quand tu as pas la relecture d'un autre humain?
Mais si, moi j'aime beaucoup, en plus, travailler avec les gens. Hein, tu vois, je trouve que tout échange est toujours très constructif, même te croiser cet après-midi, je me fais me poser des questions dans la tête, et ça, c'est une très bonne chose. Non, bien sûr, tu as raison. Le rapport humain est hyper important, constructif, et suscite la créativité, exploiter des nouvelles pistes et tout, du questionnement.
On voit dans ta bande démo que tu fais sur tes productions Génération Paria, du moins au moment de l'enregistrement de l'émission, que tout n'est pas parfait, il y a des éléments qui changent de façon impromptue, d'autres qui ne sont pas forcément ultra réaliste. Est-ce un parti pris artistique?
Alors, non, c'est pas un parti pris. Faut savoir que dans ma bande démo, alors sur mon site Monsieur Crew, la bande démo est déjà ancienne. Je l'ai pas réactualisée. J'ai fait d'autres choses depuis. La bande démo de mon site date de été 2025, donc c'est la préhistoire pour l'IA. Ouais.
On tourne en mars 2026, hein, donc,
d'accord.
Donc ça fait même pas 9 mois, quoi. C'est ça qui est fou.
C'est très ouais. vieux, c'est très. Mmh. Et en plus, dans cette démo, il y a des contenus qui ont été créés début 2025. C'est un mélange. Et c'est vrai que au début, au moment de ces créations, je faisais que du contenu pour me faire connaître et pour montrer les possibilités d'IA. Et aujourd'hui, je suis plus sur du terrain, c'est-à-dire j'ai des demandes, donc je m'occupe moins de faire de la production pour montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Mais tu as raison, effectivement, c'est pas.
T'as plus besoin de renouveler ton CV puisque t'es connu dans le domaine.
Ben. Oui et non, c'est-à-dire que l'IA c'est un puissant frein. Il faut continuer tout le temps à produire des nouvelles choses parce que comme tu l'as souligné effectivement, il y a des approximations et des choses qui sont pas parfaites. Donc il faut sans arrêt produire du nouveau contenu qui corrige ce qui n'allait pas dans les précédentes productions.
Et pourquoi ne pas avoir exploré les hallucinations graphiques, ce qui était quand même à la mode d'ailleurs par pas mal de gens qui ont utilisé la génération par IA entre 2022 et 2024? Et s'en amuser, finalement.
Alors, très clairement, au niveau de mes productions, mon parti pris, c'est proposer des tests et des démos de quelque chose qui pourrait être directement mis en application dans l'univers professionnel et pour que je gagne ma vie avec, parce que c'est mon métier, donc je dois gagner ma vie avec des choses qui peuvent, tu vois, c'est de l'alimentaire, entre guillemets. Donc, je vais pas trop m'amuser à faire des choses complètement délirantes, même si j'adore ça, hein, je trouve ça... Et en plus, l'IA, ça a un coût. Enfin, je pense que tu dois le savoir, il y a des abonnements. Donc, c'est pas gratuit, c'est pas un programme qu'on achète une bonne fois pour toutes et puis après, on s'amuse avec. Non, pas du tout.
Ça dépend si tu peux l'installer, mais pour l'IA générative, pour les images, là, par contre, il te faut un PC énorme. Je dis PC alors que t'es sur Mac, mais il y a pas de Mac assez puissant pour ça.
Hein. Non, exactement. J'ai un ami qui m'a dit la même chose que toi. Ouais. Donc, effectivement, Non, je travaille à partir d'abonnements, différents types d'abonnements, et ça a un coût, effectivement.
Le règlement européen 2024-1689, alias IA Act, va obliger à indiquer quand une œuvre a été réalisée par IA. D'ailleurs, on le voit de plus en plus dans les publicités, dans les documentaires, dans des films, que certaines scènes ont été générées par IA. Adhères-tu ou non à cette contrainte? Est-ce que tu penses que ça doit être indiqué? Ou finalement non, il faut laisser le vague?
Moi, je pense qu'il faut que ce soit indiqué. Ne serait-ce que pour se protéger de tout ce qui est fake news, deep fake, etc. Parce que je sais que c'est un sujet que tu affectionnes particulièrement. Donc, moi, je suis carrément pour, évidemment, de l'indiquer, surtout si c'est troublant, si c'est... Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement, enfin, depuis déjà quelques mois, avec ce genre de sujet, quoi.
Je me souviens des historiens qui avaient relevé nombre d'erreurs dans les premiers documentaires sur la Première Guerre mondiale où les images avaient été colorisées, ou par exemple justement les couleurs des pantalons des Français, puisque en fait pendant la première année ils étaient en rouge, hein, c'est pour ça que les Allemands les dégommaient super vite, et ensuite il y a eu le bleu horizon. Bon, ça je vais pas y venir, on fait pas une émission historique de ce genre là ici, mais est-ce que tu estimes que il faut mettre des garde-fous dans une production? Par exemple, le groupe Canal Plus a établi une charte interne pour l'usage de l'IA générative aussi pour ces séries que pour les documentaires qu'ils font pour les chaînes Planète et tout ça.
Alors, tu viens de poser une question excellente parce que du coup, ça m'a fait me rappeler quelque chose.
Non, mais tout le monde me dit que je pose de très bonnes questions. Vous êtes pénible.
Écoute, on est fan de toi. Et c'est une excellente question parce que justement, il y a quelques mois, je suis tombé sur un YouTube, un reportage sur les camps de la mort, sur Auschwitz. À aucun moment il a été précisé que c'était de l'IA, les images qu'on voyait.
Oui, alors, ça a fait beaucoup scandale.
Alors, c'était pas des vidéos, hein, c'était des photos. Et moi, j'ai vu que c'était de l'IA. Pourquoi? Parce que, alors, on le voit en général, peut-être moins maintenant, mais on le voyait à l'époque. Il suffisait de regarder des personnages en arrière-plan. Ils étaient souvent un peu déformés, ou ils avaient une attitude un peu bizarre. Mais les premiers plans étaient troublants de véracité. Et en plus, moi, au moment où je l'ai vu, j'ai trouvé ça, les images, je les ai trouvées extraordinaires. C'est dans un deuxième temps, je me suis dit, mais c'est trop bien. Où ils ont trouvé tout ce contenu? Aussi riche, parce qu'il y en avait énormément et j'avais jamais vu ces images, et c'est là que j'ai compris que c'était de l'IA. J'ai vu ce reportage il y a un peu plus d'un an, donc à un moment où on l'utilisait un petit peu moins sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, etc. Mais là, le reportage était extrêmement professionnel, hyper bien produit et tout, et j'aurais jamais imaginé qu'ils osent faire ça, parce que à aucun moment il est mentionné que c'est de l'IA. Donc c'est extrêmement grave de faire ça. Voilà.
Soyons clairs.
Est-ce que tu as regardé la série documentaire de Darren Aronofsky sur les 250 ans de la Révolution américaine? Il produit un épisode par jour, c'est généré par IA.
Non, du tout.
On va pas en parler dans ce cas-là. Récemment, donc mi-décembre 2025, il y a eu une série de deepfakes par IA génératif qui a été postée sur Facebook, qui montrait avec un réalisme époustouflant une journaliste virtuelle dans un Paris virtuel annonçant un coup d'État. On a appris que c'était un adolescent du Burkina Faso qui les a produits. Qu'as-tu pensé ? Good game, tu iras loin, ou mais pourquoi Vladimir Poutine ne m'a pas appelé ?
Alors, justement, on a évoqué ce sujet il y a quelques temps, effectivement. Alors, moi, j'ai trouvé... ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que le Burkina Faso, je connais très bien, puisque j'ai tourné plusieurs fois là-bas. J'ai trouvé étonnant qu'un jeune homme du Burkina Faso ait une vie... un focus sur lui, enfin, sur son travail... aussi énorme international, c'est passé dans tous les journaux, et que il ne souhaite pas se faire connaître, parce que c'est quand même assez extraordinaire qu'une grande puissance comme la France tout d'un coup ça crée un problème ce genre de production. Et je me suis même demandé si c'était vraiment un jeune homme du Burkina Faso qui avait produit ça, parce que je trouve ça un peu douteux. Voilà. Parce que, comme je te dis tout à l'heure, la création d'intelligence artificielle nécessite des moyens. Là-bas, le salaire commence à 75 ou 100 euros par mois. Donc, je vois mal une personne s'abonner à des sites, à moins qu'il ait trouvé un site gratuit. Mais de cette qualité-là, je sais pas.
Plus la bande passante de l'ensemble du Burkina Faso. Et j'ai eu encore confirmation de journalistes sur place.
Ouais.
C'est quand même... Faut avoir beaucoup de moyens quand même là, effectivement.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne le connaisse pas.
Donc qu'il ait les moyens, qu'il soit fils d'un apparatchik et tout ça, ça on comprend, mais qu'effectivement, ils disent pas qui il est.
Mais bien sûr, je comprends pas. Aujourd'hui, on est à l'ère quand même, tout le monde a envie d'être connu sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Ce jeune garçon ou ce jeune homme, ou je sais pas, c'était une opportunité, mais inespérée pour lui, de se faire connaître et de montrer la qualité de son travail. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, à titre personnel, mais je trouve ça un peu étonnant.
Je pense que mon avis, tu vois, il est très synthétique et très éloigné de tout ça, et je n'ai fait que poser des questions à des spécialistes du sujet, puisque j'avais des contacts, effectivement, au Burkina Faso, et d'autres dans des journalistes et dans certaines ONG qui sont spécialisées dans l'information, la sécurité informatique et tout le reste.
Burkina Faso, entre guillemets, c'est éloigné de la France, dans les conditions qu'on connaît. Et
deux coups d'État successifs.
Je sais pas, je trouve ça un peu... Je pose la question, je trouve ça un peu troublant. Voilà.
Jean-Louis, je peux t'appeler Jean-Louis, Monsieur Cause.
Bien sûr.
Est-ce que pour toi, il y a une vague d'hostilité qui est aussi justifiée que le dédain envers le rotoscoping ou la 3D en animation?
Alors oui, il y a une vague d'hostilité, mais je trouve qu'elle est en train de s'estomper. Et je vais te donner un exemple, parce que il y a environ un an et demi ou deux ans, moi j'ai fait une exposition de mes créations en intelligence artificielle, et j'ai eu des personnes qui m'ont dit mais ce n'est pas de l'art, d'accord? Chose à laquelle je répondais, mais c'est quoi de l'art pour vous? Donc évidemment, il y avait un blanc. Sans prétention, encore une fois, j'ai fait les Beaux-Arts, je suis diplômé, donc s'il est question de parler d'art, je sais de quoi je parle. Les personnes, tu vois, ils partaient.
Ça me fait penser. Est-ce que tu te souviens, Galerie Saint-Georges, il y avait un magasin qui proposait de faire des hologrammes. Faisait les médaillons en hologramme, etc. Oui, oui. Et t'avais souvent des gens qui bitchaient dessus, qui disaient c'est pas de l'art, etc. Ouais. Alors quand même, t'as du cadrage, t'as tout ça, t'as contrainte technique.
Moi, j'ai une vision très large de l'art. L'art, pour moi, c'est quelque chose qui doit générer une émotion, quelle qu'elle soit. Une attirance, un rejet, ça peut être esthétique, ça peut être répugnant, c'est de l'art. À partir du moment où ça crée quelque chose en toi, tu vois. Et concernant mes images, j'ai jamais eu la prétention d'être un artiste. J'ai même une casquette, elle est marquée « I'm not an artist » pour les soirées, justement, où je fais des expositions, parce que dès que les gens commencent à m'agresser, entre guillemets, je leur montre ma casquette, il y a marqué « I'm not an artist », le problème est enfin, le sujet est clos. Donc, voilà. Et là, en fait, ça, c'est ce que je vivais il y a environ un an et demi, entre guillemets, sur les expos. Et là, dernièrement, j'ai fait une exposition à Montauban, à la Maison de la Région. Et là, par contre, j'ai été très étonné, parce que j'ai eu des photographes tradis qui travaillent avec de la photo, des personnes qui s'intéressent à l'art. Et là, pour le coup, ça a switché. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, ils ont compris que les outils d'intelligence artificielle, c'était des outils on peut avoir entre les mains le même outil selon la personne qui va l'utiliser, on va avoir des résultats différents. Moi, je leur prends pour exemple une palette de peinture avec un pinceau, vous la mettez entre les mains d'une personne lambda, elle va vous faire quelque chose, vous mettez le même outil entre les mains de Picasso, ça va être, il va faire autre chose. L'intelligence artificielle, c'est la même chose, c'est juste un outil, et selon les mains entre lesquelles sont mises, on aura des résultats différents.
Est-ce que tu comprends qu'il y a une frange de professionnels fortement hostiles dans le domaine de l'audiovisuel ?
Oui. Alors, comme je dis, oui, parce que souvent, ils ont peur que l'IA leur prenne leur travail. Et comme a dit, alors, je sais pas si c'est pas Xavier Niel, mais qui lui-même l'a repris d'une autre personne, c'est pas l'IA qui va vous prendre votre travail, c'est celui qui sait utiliser l'IA. Donc, moi, je dis, l'IA, c'est un TGV, là. Alors, il y a des gens qui sont sur le quai en train de regarder le train partir, et ils vont utiliser leur mouchoir pour dire bon voyage, et puis après, ils l'utiliseront pour pleurer, leur mouchoir, et puis il y a ceux qui sont en train de monter dans le train, voire qui sont déjà dans le train, et voilà. Donc, je comprends ces gens-là, mais c'est la même chose que quand est apparu les appareils photo numériques. Moi, j'ai vécu la même chose avec les appareils photo numériques par rapport aux photographes qui utilisaient l'argentique. C'était exactement pareil. Ils faisaient un rejet en disant c'est trop facile, c'est machin, c'est blabla. Aujourd'hui, je pense que voilà.
Tout comme tu as vécu les moines copistes face à Gutenberg quand il a inventé l'imprimerie à caractère mobile.
Je l'ai pas vécu, mais c'est bien ce que tu fais comme rapprochement, parce que c'est exactement le même problème. De la même façon que quand est apparu, entre guillemets, Internet, où ça a été utilisé, les enseignants disaient, non, le savoir doit être pris dans les livres, dans les bibliothèques, et surtout pas sur Internet. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'enseignants qui utilisent les livres et qui ne vont pas sur Internet pour faire leurs cours.
C'est tout à fait vrai. Et que penses-tu des acteurs qui sont mis en grève pour obtenir le droit de ne pas être forcés à être scannés en 3D par les sociétés de production ?
Alors, est-ce qu'ils sont forcés réellement ? Ou est-ce que... Vraiment ?
Ouais.
D'accord.
Ouais. Après, sur la production des récentes séries, par exemple, de Game of Thrones, jusqu'à la toute dernière, là, qui est arrivée, où c'était plus le cas, ils étaient obligés de passer dans un tunnel lumière et caméra, une fois maquillé et tout ça, avec la démarche et tout le reste, tout a été scanné.
D'accord. Là, je suis carrément ce genre de choses. Ce que je trouverais normal, c'est que ils aient la possibilité d'accepter ou non, et que s'ils acceptent, dans ce cas-là, il y a un reversement de droit à l'image chaque fois qu'il y a une utilisation de leur attitude, de leur physique, de leur timbre de voix, etc. Il y a des reversements. C'est ce qui est normal.
Donc il reste une société d'auteurs à côté des 60 sociétés d'auteurs qui existent déjà en France à créer de ce côté-là pour toi.
Je pense que c'est une très bonne idée.
Ouais. Ouais. Et justement, les acteurs qui ont accordé en licence leur voix, leur démarche, leur visage et tout ça, il y a un catalogue qui existe ?
Alors je sais pas. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a des photographes qui ont été sollicités, parce que j'en connais, à qui on a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour mettre à disposition votre contenu photo afin d'alimenter des IA, et que chaque contenu mis à disposition a été payé. Alors c'est un prix forfaitaire qui est insignifiant, mais en tous les cas ils ont été payés pour ça. Après, je pense qu'il y a un modèle
en France ou aux États-Unis. C'est pas la même gestion de droits d'auteur entre les deux.
Ouais. La personne dont je parle est française, mais par contre, c'est Amazon qui lui a demandé.
Donc, d'accord. Ouais. Ah, Amazon, donc peut-être qu'effectivement, ça soit un contrat copyright. Donc, ça veut dire qu'il cédait tout, définitivement, quoi.
Exactement. Je crois que c'est ça, là, le principe, hein. Il cède tout. J'ai aussi une société, de production au Maroc à qui on a demandé de mettre à disposition du contenu vidéo. Cette fois, c'était pas des photos, c'était de la vidéo. Mais là aussi, ils ont considéré que c'était payé une misère. Mais bon.
Oui, forcément. Et est-ce que tu peux tourner un acteur, c'est-à-dire faire une mise en scène avec un acteur, tourner la vidéo, envoyer la vidéo à un moteur d'intelligence artificielle générative pour lui dire « Tu m'habilles l'acteur comme ça et je veux qu'il évolue dans tel décor » ou est-ce qu'il y a des limites quelque part juridiques ou techniques ?
Non, c'est tout à fait possible. Alors techniquement, non, il n'y a pas de limite, parce que moi, j'ai déjà fait, t'as pas besoin de tourner avec l'acteur, c'est juste avec quelques photos. Tu alimentes une base de données, je te montrerai. J'ai fait des tests, par exemple, justement pour des démos pour le Maroc avec le joueur de foot, où je l'ai mis en scène dans un avion, je l'ai mis en scène dans une fausse pub, et tu pour montrer que techniquement, c'était possible, uniquement avec des photos, non pas de la vidéo. C'était sans l'accord, c'était juste pour une démo interne, attention.
D'accord, donc je biperai.
C'était pour une démo interne, et même, je crois que je l'ai mise en ligne, mais j'ai précisé que c'était une démo, que je n'ai pas l'accord des marques, etc. C'était juste pour montrer ce qu'il était possible de faire. C'est pas pour vendre quelque chose, c'est juste pour montrer techniquement ce qu'il est possible de faire. Faut dire que je vends, entre guillemets, mon savoir presque, mes compétences, mais je le vends pas de manière...
T'aurais pu le faire avec Jérôme le commandeur ou Gérard Larcher, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, qu'il ne soit pas footballeur.
Mais en tous les cas, bon, les tests que j'ai fait, c'est pas pour vendre un projet, c'est pour montrer la technique, hein. Voilà. Je suis pas une agence. Hein.
Alors, j'aime beaucoup ce que tu produis. Il y a notamment une série d'images de personnages de l'Empire de Star Wars dans un look afro-futuriste. Est-ce que tu comprendrais que cela froisse aussi bien la Lucasfilm sur leur copyright que des artistes africains qui pourraient t'accuser d'appropriation culturelle?
Alors, sur cette série, je peux en parler. Je t'explique. Elle a été faite à partir de photos que j'ai faites au Burkina Faso, de murs peints de maisons. L'idée, c'était de prendre deux extrêmes, de prendre l'univers de Lucas, qui est futuriste, et de prendre quelque chose de beaucoup plus authentique, avec un savoir-faire africain, etc. Et de voir, de fusionner les deux. Ce sont de très vieilles images que j'ai faites. Je sais pas si c'est pas de 2024. Hein. C'était juste pour voir ce que ça pouvait donner. Et le résultat, je l'ai trouvé assez étonnant.
Ah, il est bluffant.
Ouais, j'ai trouvé ça chouette. Ouais. Hein, est-ce que ça peut appropriation culturelle? Alors, j'ai l'impression que qu'il reste plus grand chose de il y a un mood africain dans ce qu'il y a, mais c'est plus dans les couleurs, les textures, mais après graphiquement et tout, c'est tellement redigéré, réinterprété par l'IA que on va dire qu'il y a une influence africaine, mais c'est pas un copier-coller littéral non plus, hein. À la limite, il y a George Lucas qui pourrait se plaindre.
Enfin, maintenant, c'est Disney. Il a vendu tout.
Oui, mais sachant qu'il y a une, comment dire, dans tout ce qui est du domaine artistique, moi, ça m'a toujours étonné. On peut faire ce qu'on veut. On peut prendre du Mickey, etc. Ça a été fait et refait dans tous les sens. Le retriturer et faire une œuvre artistique, il n'y a pas de droit à payer et d'autorisation. Dans tout ce qui est du domaine artistique. Et ça, c'est valable en Europe, aux États-Unis. Je sais pas, tu as dû voir déjà des Mickey détournés, mais Warhol l'a fait, ou d'autres aujourd'hui, des tableaux entièrement fabriqués à partir de licences. Superman, ou toute la série des Avengers, enfin tout, quoi. Tout a été détourné. Même des marques comme Vuitton, etc. Les logos de Vuitton sont collés sur tout et n'importe quoi pour faire des œuvres d'art, et ils disent rien du tout. Hein. C'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Ah
ils sont pas mal, moins que Marvel, hein, depuis qu'ils sont à la production cinéma, ils sont pas tristes au niveau avocat.
Dans le domaine artistique, c'est hallucinant, tu peux faire presque tout ce que tu veux, quoi. Il y a pas de non, tu verras, tu vérifieras.
Comment appréhends-tu les droits d'auteur sur les images générées? Parce que l'IA s'est alimentée d'œuvres sous copyright, et vu que tu utilises un outil en ligne pour créer, tu es tributaire des conditions générales d'utilisation du service. Alors, je précise qu'on enregistre le 9 mars et que des jugements sont en cours aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, donc peut-être que la situation va complètement changer d'ici deux prochaines semaines.
Alors ta question, c'est est-ce que ce que je crée...
Ouais, comment tu appréhendes, c'est-à-dire est-ce que tu mets DR, c'est-à-dire droit réservé sur les images que tu génères, ou t'as mis une petite capitalisation de côté en disant si jamais on me demande de payer des droits parce que c'est inspiré de tel truc.
Alors, au moment où moi j'ai pris un abonnement, la plupart des images que je crée sont faites sur Midjourney. Et quand j'ai pris l'abonnement le professionnel, qui est l'abonnement le plus cher, il est de l'ordre de, je crois, c'est 600€ par an, je crois, un truc comme ça. Dans le contrat qu'on signe, il est spécifié qu'on est propriétaire des images, qui n'ont pas le droit de les réutiliser pour autre chose. Normalement, elles partent pas dans un flux, si tu veux, contrairement au premier prix des abonnements où elles se retrouvent sur un forum un peu partout.
Oui, elles font partie du fonds alimentant l'intelligence et tout ça.
Et en plus, on a accès au prompt. C'est ça qui est un peu dangereux, tu vois. Ouais. Parce que moi, ce que je fais ne remonte nulle part. Enfin, j'ai la possibilité de le cacher et c'est ce que j'ai fait. Donc, ni mes prompts, ni mes créations ne sont visibles ni sur Discord, ni sur le flux de Midjourney. Donc, a priori, d'après le contrat que j'ai, je suis censé être propriétaire, ils sont pas censés les réutiliser. Après, je sais pas ce qui se passera dans un second temps. Mais bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas...
Et histoire de refroidir, puisqu'on est dans l'hiver le plus chaud depuis l'enregistrement des services météo en France, donc depuis le début du siècle dernier, écologiquement, est-ce que tu as des cas de conscience où finalement le bilan CO2 est positif par rapport à la demande du client qui voulait filmer des ULM en haut de la cordillère des Andes?
Alors, effectivement, c'est bien ce que tu soulèves ce problème, parce que j'avoue que je me pose pas cette problématique aujourd'hui, alors que je sais que l'IA utilise énormément de ressources. Si tu veux, moi, c'est pour fabriquer des choses pour dans le cadre de mon travail et pour en vivre, entre guillemets. Tandis qu'il y a énormément de choses qui sont générées pour s'amuser, pour faire des blagues, pour les réseaux sociaux, pour... voilà, je pense que là, il devrait y avoir un cadre et surtout éviter les outils gratuits. Je pense qu'il devrait être payant et qu'une part de cette somme-là soit...
C'est une manière de protéger ton boulot.
Peut-être, on peut le voir comme ça aussi. Mais moi, je considère, je paye pour ça. Et je pense que même une partie de ce que je paye devrait être peut-être donnée pour des problématiques écologiques ou je ne sais quoi. Enfin, mais c'est vrai que ce problème-là, c'est bien de le poser. Je me pose des fois cette question-là. Mais j'avoue que bon, c'est mon travail et que j'en vis. Ça m'est difficile, tu vois, d'être jugé parti, quoi.
Eh ben, monsieur Cruz, merci quand même de cette prise de position courageuse, surtout que tu es en déplacement et que moi je joue à domicile. Et de suite, une coupure musicale pour l'arbitrage vidéo. Let Forever Be, avec un clip de Michel Gondry. Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Cruz, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Les systèmes d'IA générative sont des machines à amplifier les biais, ça je le vois à chaque fois que je tente de m'en servir, s'appuyant sur des points communs statistiques, et c'est rare en général qu'on a vraiment de la création, c'est vraiment, on revient à chaque fois sur quelque chose qui préexistait déjà ou qui sont vraiment tout à fait standards. Est-ce qu'on se condamne qu'à répéter des lieux communs ?
Alors, j'ai un point de vue très précis là-dessus, je considère que l'IA fonctionne un peu comme notre cerveau, c'est-à-dire notre cerveau. Je parle en tant que créateur. Ce que je crée aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance, tout ce que j'ai vu à la télé, tout mon environnement, etc., etc. Et l'IA, elle fonctionne en quelque sorte un peu comme ça. Elle s'alimente de tout ce qu'il y a sur dans le monde. Et il est évident, en ce qui me concerne, que si j'étais né sur je ne sais où, en Indonésie ou sur une île déserte, ce que je produis ne serait pas ce que je fais aujourd'hui. Et je trouve que le fonctionnement de l'IA est un peu similaire. On n'invente rien, on ne fait que, sciemment ou inconsciemment, que récupérer ce qu'on voit, ce qu'on vit, le redigérer et le réinterpréter. Et je trouve que la mécanique de l'IA est un peu comme ça. C'est-à-dire que je crois pas vraiment à la création. Même quand Picasso sortait ses œuvres assez incroyables, il s'inspirait de l'art africain, il s'est inspiré de plein de choses, il n'a fait que les digérer, les réinterpréter, selon ses influences, etc. et sa culture.
On peut parler de Liechtenstein, hein, dans ce cas, si on prend les peintres, puisque lui faisait qu'agrandir des cases de DC Comics,
c'est ça,
et pour les vendre en tableau. Un point qui a été dit lors de la soirée inaugurale de l'ANIA Toulouse, l'Association nationale de l'intelligence artificielle, donc tu es cofondateur du chapitre toulousain, et que j'ai souvent entendu ailleurs par d'autres producteurs audiovisuels, c'est l'extrême importance du vocabulaire. En fait, tout ce qui fait la qualité d'un prompt, c'est le vocabulaire utilisé. C'est le vocabulaire du product owner, du scénariste, du décorateur, du metteur en scène, du directeur photo. Ou est-ce que finalement, c'est tout à la fois ?
Alors, c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire qu'un prompt, plus il est enrichi de spécificités, de choses très pointues, plus le résultat final va se rapprocher d'un résultat professionnel. C'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je crois que je l'ai dit effectivement à la soirée de l'ANIA, j'intègre dans mes prompts, ça peut être le modèle de caméra, la pellicule, la focale, les informations, les orientations de lumière, l'époque, le lieu, enfin tout ça, qui peuvent avoir une incidence sur l'image finale. C'est-à-dire, j'ai un peu la main là-dessus, et la différence entre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler sur l'image, qui va dire « fais-moi je sais pas quoi », et une personne qui maîtrise ça, qui va dire que c'est telle caméra, tel modèle de caméra de telle époque. Pour donner un exemple, si je veux une image de très grande qualité, je veux dire que ça a été shooté avec un Hasselblad, je ne sais quel modèle, telle pellicule, dans tel contexte, avec tel type de lumière, etc., etc.
C'est-à-dire, si là j'improvise, ma question qui est déjà préécrite, tu me prends chez Ikea trois fauteuils Brobok, mais surélevé de 50 cm devant une table, Scalsta, mais avec un plateau en marbre vert translucide Pantone PMS 3415, et je veux qu'on tourne tout ça en Technicolor Trichrome, avec un éclairage à 5600 degrés Kelvin, et que les acteurs aient un fond de teint mat couleur terracotta Trump en plus granuleux, c'est à peu près ça.
Ah, mais complètement, t'as tout compris.
Je tiens à signaler qu'on avait un jeu tous les
Bravo.
Deux. Quand on travaillait dans une chaîne de télévision musicale, on avait un jeu, c'était regarder l'équipe, et toi, j'ai connu des graphistes qui retrouvaient le nom de la police, même quand elle était légèrement tiltée et tout ça, et toi, ton truc, c'était le catalogue Ikea, t'étais très fort à ça.
Ah bon, je me rappelle plus.
C'est vrai que tout le monde utilisait Ikea dans tous les clips aux États-Unis, en France.
Ah oui, c'est pas faux. Maintenant que tu me dis ça, ça me parle, oui.
Mais en gros, c'est ça, plus on est technique, et plus, en fait, justement, plus on a la culture matérielle, et qu'on sait de quoi on parle, plus l'IA se rapproche de ça.
Mais exactement, tout ça, ça peut être injecté dans l'IA, ça peut être injecté dans un prompt, de rajouter toutes les informations qu'on a dans la tête. Moi, je parle à l'IA de la même façon que je parle à mon chef opérateur, pour lui dire je veux telle focale, tel placement, telle hauteur de caméra, telle valeur de cadre, etc. Tout ça, elle le comprend. Ouais.
Donc, pour reprendre l'exemple qu'on avait pris dans la première partie de l'interview, qui était « j'ai tourné une vidéo, je la fournis à l'IA », c'est « reprends-moi les valeurs de plan, de zoom, de lumière, applique-les à une autre scène telle que je te l'ai décrite », ça passerait, quoi.
Oui.
C'est impressionnant.
Ça passerait bien, oui, tout à fait.
Et t'as parlé principalement de Midjourney. Est-ce que c'est vraiment l'outil principal que tu utilises ? Tu as d'autres outils derrière pour travailler ?
Alors, non, c'est pas l'outil principal, et je suis en train de m'en éloigner de plus en plus, parce que Midjourney a des limites. Alors, pour faire de l'image artistique pure, je trouve que c'est un très bon outil. pour faire de l'image fixe, artistique pure. Après, aujourd'hui, pour faire de la vidéo, j'ai basculé principalement sur une sorte, si on peut appeler ça un portail, qui s'appelle Highfield, qui regroupe plein d'outils et qui a toujours à la pointe des nouvelles variations d'outils.
C'est-à-dire, t'as un connecteur central, tu fournis une fois ta carte bleue et tu peux essayer ton prompt sur plusieurs
exactement,
à la fois,
ouais.
D'accord.
Sur cet outil-là, il y a accès à Kling, à pas Midjourney, mais à Nano Banana Pro.
Oui, le nouveau moteur de Google dont beaucoup de gens font des gorges chaudes.
Ouais. Exactement. C'est un outil incroyable, hein, Nano Banana Pro, vraiment. Pour tout ce qui est très très réaliste, c'est pour moi l'outil parfait.
Mmh. C'était quelque chose que tu avais dit justement à cette soirée publique, où tu avais dit que si vous prenez un abonnement à un outil spécifique, prenez un abonnement mensuel plutôt qu'un abonnement annuel. Ça te permet aussi de zapper rapidement sans trop te poser la question.
Oui. Alors, exactement, parce que il y a quelques mois, je trouvais que il y avait des nouveaux outils qui apparaissaient. Finalement, on se disait, ah, ben, finalement, il est mieux que celui que j'ai utilisé le mois précédent. Mmh. Et le problème d'un abonnement annuel, on s'engage, c'est une certaine somme sur un an. Et s'il y a un nouvel outil qui sort, à moins d'avoir de très gros moyens, c'est un peu ennuyeux, quoi. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le seul outil sur lequel je suis abonné annuellement, c'est Midjourney, comme je l'ai dit. Mais parce que j'avais pris un abonnement d'un an, donc, qui se reconduit. Et aujourd'hui, il y a que Highfield sur lequel que j'utilise mensuellement. J'ai un abonnement mensuel, mais je pense que je vais peut-être basculer sur un abonnement annuel prochainement, parce que les prix sont beaucoup plus intéressants, et surtout, ils proposent tous les derniers outils, toutes les versions, les dernières versions des outils les plus, comment dire, les meilleurs outils, ouais. Ouais. J'ai un abonnement aussi sur ChatGPT, parce que c'est un outil incontournable aujourd'hui pour l'écriture du prompt. Parce que souvent, mon workflow, j'écris d'abord un prompt un petit peu au kilomètre comme ça. Je le passe dans ChatGPT, je lui demande de me le réécrire, adapté à l'outil dans lequel je travaille.
Ah, en disant, ce sera pour tel moteur,
exactement.
Etc. Ah,
je veux dire, par exemple, si je veux créer une image, je vais décrire mon image, etc. Et comme je suis pas le type infaillible pour l'écriture du prompt, une fois j'écris mon prompt, je vais demander ChatGPT, réécris-moi ce prompt pour Midjourney 7. Optimise-le moi pour Midjourney 7, et il va du coup le réécrire, il va mieux comprendre ce que je veux dire. Alors que si je prends ce même prompt, je le copie directement dans Midjourney, il va y avoir des problèmes. Tandis que ChatGPT, c'est un outil absolument génial pour ça. Mmh. Ouais.
Alors là, on parle surtout d'outils qui ont été conçus aux États-Unis. Est-ce que tu as essayé justement, s'ils existent, les moteurs qui sont conçus en Europe ou en Chine? Et est-ce que tu as vu des différences notables, par exemple, si tu dis Place Tiananmen, 1989, scène de joie?
Alors malheureusement, j'ai pas fait ce genre de test. J'ai testé le. Non, j'ai. Alors en plus,
nous fâchons pas.
Je crois que un des rares outils chinois que j'utilise, c'est. Je crois que Kling est chinois, mais j'en suis même pas sûr. C'est difficile de savoir quelle est la nationalité entre guillemets de l'outil qu'on utilise. Hein. Je sais pas si toi t'as une manière de le savoir. Par exemple, ChatGPT, c'est américain.
Oui.
Ça, on le sait. Après, il y avait.
Il y a Mistral qui est français. C'est l'un des rares.
Et est-ce que t'es sûr que c'est vraiment français? Parce que moi, j'ai lu sur.
Et ils ont repris le code source open de ChatGPT, mais ils ont dû concevoir leur propre bibliothèque d'inférence et tout ça derrière.
Mais j'ai lu qu'il y avait des capitaux américains de chez Mistral.
Oui, mais ça.
Donc, ça veut dire qu'ils ont un peu un droit de
oui,
regard.
Oui, mais il y a des capitaux américains, oui, tout à fait. Mais par contre, juridiquement, ils sont placés différemment. Donc, peut-être qu'ils ont des sources différentes et tout le reste.
D'accord.
Comment récupères-tu les livrables que te fournit en fait l'IA générative pour tes vidéos? Direct en format vidéo MPEG, en DCP, tu peux demander un export avec Alpha Channel ou des objets en 3D pour tes compositing?
Non, alors les outils que j'utilise produisent... Alors, je pense que c'est du H264, et encore, j'en suis même pas sûr. Je sais pas quel est le codec qui est utilisé, c'est une M4V...
Le minimum pour le M4V, c'est du H263-264, oui.
Ouais. Et je vois là aussi l'évolution. Auparavant, c'était du 720p. Ensuite, maintenant, ça devient presque la norme de faire du 1080p. Ensuite, on passe par des outils d'upscale, type Topaz, ou il y en a d'autres qui permettent de faire de l'upscale de très grande qualité. Et justement, le portail j'appelle ça un portail Highfield que j'utilise, a des outils d'upscale, et ils mettent...
c'est inclus.
Oui, il y a l'outil notamment Topaz qui est accessible via...
Donc ça te permet de payer moins de tokens, du coup, à la commande, ouais.
Et surtout, je sais que Topaz, c'est un outil qui est assez cher. D'accord. Je voulais l'acheter, je crois que le programme coûte 150 ou 200 euros, et puis après, il y a un abonnement, enfin, c'est horrible, quoi. Ouais.
C'est là que passe le prix de vos Blu-ray édition 4K de vieux films.
Et en plus, deuxième problème que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que Topaz est installé sur ta machine. Résultat, ça demande des ressources colossales pour traiter.
Et résultat... Oui, mais tu dors. À oui, ton PC, et puis voilà. Oui.
Non, mais c'est, en termes de productivité, c'est pas terrible. Tandis que, quand toutes les requêtes sont sur des serveurs déportés, c'est bon. Alors, je sais que c'est pas bon pour la planète, comme tu me l'as dit. Mais c'est quand même plus,
voilà. Ça dépend. Ça dépend. Un PC peut consommer plus à usage équivalent qu'un serveur.
Ouais, ok.
Bah oui, ne serait-ce que l'écran. Quand un outil est meilleur qu'un autre sur un domaine particulier, est-ce que tu peux panacher ces outils sur une même scène ou entre scènes différentes? Ou c'est pas, ça existe pas encore?
Ah mais carrément, je fais ça justement. Souvent, je fusionne les outils, selon ce que je veux. Si c'est, je te dis, de l'artistique ou du l'hyperréalisme, pour de l'artistique, je vais basculer sur Midjourney parce que ça comprend très bien les associations artistiques. Mais si je veux de l'hyperréalisme, je vais plutôt travailler avec Nano Banana Pro, par exemple. Et pareil, la post-production, je la fais avec des outils traditionnels du type Final Cut ou DaVinci Resolve ou des choses comme ça. C'est-à-dire, je crée les rushes, les parties de ma composante du futur projet, et ensuite je les monte et je les retravaille parce que justement, chose que font peu les gens, j'ai remarqué, c'est que souvent ils utilisent les images sorties brutes de l'intelligence artificielle, donc elles sont parfois un peu ou synthétiques ou cristallines, alors que moi, j'applique des filtres pour ajouter du grain, les altérer un petit peu.
C'est ce que tout le monde reproche à l'IA générative, c'est look trop clean au premier plan et tout ça.
Oui, et puis il y a aussi une patte. J'ai remarqué par exemple, quand tu t'amuses à faire des images sous ChatGPT, elles ont souvent une espèce de coloration légèrement dorée, jaune, un peu verte, je sais pas quoi. Et ça, voilà quoi. À moins de l'avoir indiqué peut-être dans le prompt, de créer une image un peu plus froide ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, ChatGPT, il y a un look ChatGPT qui est propre à l'outil.
On est encore trop près du Technicolor Trichrome, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Pour ceux qui veulent savoir, cherchez l'histoire de la technologie Technicolor. Ça vous fera rechercher. Si tu es pas très satisfait, est-il possible de lui faire sortir des concept art, des objets ou des scènes modélisées en 3D, trucs comme ça?
Alors, en ce qui concerne la 3D, encore une fois, je n'ai pas trop utilisé. Je sais qu'il y a des outils, encore une fois, dans Highfield qui permettent de faire de la 3D, mais je les ai pas trop utilisés parce que pour l'instant, j'ai pas été extrêmement convaincu. J'ai testé un truc qui était pas mal du tout. C'était le fait de rentrer, pardon, une paire de chaussures, dans cet outil-là. Et il était capable, je ne sais comment, de l'imaginer en 3D et de, on pouvait la faire pivoter. Tu sais, comme on appelait ça du QuickTime VR à une époque. Alors, je sais pas comment, tu vois.
Oui, c'est l'effet bullet time Matrix.
C'est voilà. Ça. Juste à partir d'une photo, il est capable d'imaginer le dessous. Tu te dis, mais comment il fait, quoi? C'est-à-dire, je pense qu'il va chercher des sources à partir de la photo qu'on donne, des sources sur Internet, il va extrapoler le produit, mais j'ai vu des choses, des outils, mais je les ai testés il y a plus d'un an, je trouvais ça moyen, mais je pense que ça a dû bien évoluer aujourd'hui, et que ça doit être quand même pas mal du tout, pour de la 3D aussi, hein. Mais j'avoue qu'on m'a pas, pour l'instant, orienté vers des demandes comme ça, parce que sinon il faut avoir un cerveau, et moi j'ai le cerveau qui explose, hein, avant de partir.
Le coup de vieux sur les scénarios de CSI, les experts. Zoom and announce. est-ce qu'avec les outils que tu utilises, tu penses qu'il est possible de collaborer à plusieurs metteurs en scène? C'est-à-dire plusieurs personnes qui travaillent collaborativement sur les mêmes types de prompts?
C'est une bonne question et je vais avoir du mal à répondre parce que je ne sais pas s'il y a des outils collaboratifs en IA, mais je pense que ça doit être possible pour des scénarios, choses comme ça, du texte. Après, en image, je ne sais pas. Parce que c'est souvent un prompt, un résultat. Ça va très vite, hein. C'est prompt, résultat. Je ne sais pas comment pourrait s'intercaler une autre personne au milieu de tout ça, ou alors partager le prompt pour qu'elle réintervienne, je ne sais pas.
Tu sais, on a un truc en développement informatique qui s'appelle le pair programming, c'est-à-dire on est deux derrière un clavier, et à tour de rôle, chacun prend le clavier, on commente, etc. D'accord. Donc il y a plein de stratégies.
Alors, ouais, d'accord.
Tu vas te mettre à autre chose que le basique, hein.
C'est sûr.
Et alors, attention, là, je vais faire une analogie par rapport au design web. Peut-on imaginer une scène en design liquide? Alors, le design liquide, c'est-à-dire qu'on réarrange dynamiquement, sans y penser, en fonction du cadrage en cinémascope ou en vertical smartphone.
Tu vois pas trop le truc?
Si, si, j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire réorganiser une scène pour qu'elle soit adaptée au format, c'est ça?
Alors, je le dis pour les auditeurs qui comprennent pas. Vous allez sur un ordinateur, vous mettez en plein écran votre navigateur web, vous tapez cpu.pm et ensuite vous changez la largeur et vous allez voir que c'est moi qui ai conçu tout ça, donc forcément c'est bien fait. Tout va se réorganiser par ordre de priorité en fonction, en fait, de la largeur employée.
Alors, ta question, c'est est-ce qu'on peut imaginer une scène en design liquide, c'est-à-dire que ça le fasse automatiquement, c'est-à-dire on tape un prompt, par exemple, avec un descripteur.
Et je vais dire, je veux 4 sorties vidéo différentes, une en 4K, l'autre en 1080, et une en SD, l'autre pour smartphone en vertical.
C'est tout à fait possible, et je vais te dire, ça va même plus loin que ça. Alors, une réadaptation en fonction du format vertical, 16:9, ou format ultra cinémascope, version Technicolor, comme les westerns de notre enfance, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et pire que ça, il y a des outils aujourd'hui, tu crées une seule image d'un personnage mis en scène, et tu lui demandes de te décliner 9 axes caméra avec des valeurs de plan différents. Il est capable de le faire en gardant la consistance du personnage. C'est incroyable. Et en plus, il te fait des suggestions de cadre auquel tu aurais même pas pensé. Des plongées contre plongées hallucinantes, des visions subjectives, des placer la caméra derrière le crâne, etc. Moi, au début, je tapais tout ça dans mon prompt, c'est-à-dire je donnais les instructions où devait être placée la caméra. Aujourd'hui, je crée une image et je lui demande, fais-moi des propositions, il va me sortir des choses. En termes de productivité, ça va très, 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 très vite.
Jean-Louis Crouse, tu ne bouges pas. On va faire une ultime pause avant un dernier sprint final avant la release de cette émission.
Wonder Singularity.
Écoutez Radio FMR. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Jean-Louis Crouse, réalisateur audiovisuel et formateur en IA générative. Monsieur Crouse, Jean-Louis, tu as commencé ta carrière comme réalisateur traditionnel, où tu as eu une carrière riche pendant 25 ans, et ensuite tu es passé à l'IA générative. À ta connaissance, combien de réalisateurs audiovisuels sur Toulouse utilisent de l'IA générative dans le domaine vidéo ?
Alors, a priori, il y en a très peu. Il y en a un qui m'a contacté sur LinkedIn. Alors, malheureusement, je suis désolé, j'ai oublié son prénom et son nom, mais je suis en contact avec lui. Il souhaiterait justement qu'on se regroupe entre réalisateurs IA sur Toulouse pour échanger, pour échanger, construire quelque chose commun. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il y a une autre personne que j'ai croisée au cours de la soirée, Anya, une personne qui fabrique du vidéo mapping en IA et qui lui travaille sur des gros projets parce qu'il a travaillé sur le vidéo mapping de l'Arc de Triomphe et il intervient aussi
du mapping. tapage lumineux sur structure 3D. Ouais.
Vidéo okay. mapping, mais il le fait en intelligence artificielle.
D'accord, oui, parce que normalement c'est fait avec de la télémétrie laser au départ et ensuite tu fais de la projection 3 avec des softs 3D, ouais, c'est assez lourd.
Alors ce que tu évoques, la télémétrie laser, c'était il y a très longtemps. Entre-temps, on a créé des images faites sur After Effects par exemple, et là ces animations sont faites en intelligence artificielle parce que ça va plus vite et il crée aussi des décors pour des émissions comme la Starac, quelque chose comme ça, et c'est un Toulousain.
D'accord.
Voilà.
On a un trope avec la Starac. Vu qu'on est justement à Toulouse, on a des studios d'animation qui cartonnent internationalement, les studios TAT, qui notamment ont fait plusieurs dessins animés, ils ont fait la dernière série Astérix sur Netflix d'Alain Chabat et tout le reste. Est-ce que tu as discuté avec eux, sachant qu'ils font à la fois de l'animation traditionnelle et de l'animation 3D?
Alors non, malheureusement, je n'ai pas discuté avec eux, mais ta suggestion est excellente. Il faut absolument que je rentre en contact avec eux. En fait, pour tout te dire, je ne suis en contact avec quasiment personne sur Toulouse parce que j'ai beau être né quai de Tunis à côté de chez Claude Nougaro, j'ai jamais travaillé à Toulouse. J'étais toujours localisé à Toulouse, mais j'ai travaillé beaucoup à l'étranger avec d'autres. Et je rêve de rentrer en contact avec des gens sur Toulouse parce que il y a un mood, il y a un état d'esprit ici qui me plaît, qui me correspond. Et je lance d'ailleurs un appel si jamais des personnes me contactent sur mon mail jeanlouiscruz@mi.com ou sur mon site internet, quel qu'il soit, je serais ravi d'échanger avec eux.
D'accord. L'IA générative entraîne une chute des tarifs et des prestations, mais est-ce que ça fait quand même des frictions avec les clients? Soit parce que c'est trop cher pour ce que l'on paie, soit c'est, on n'a pas envie d'IA générative pour ce projet.
Alors, en France, on était très réticents à l'IA générative, mais ça, c'est culturellement français, parce qu'on est un pays de création, etc., pour toutes les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Par contre, à l'étranger, moi, j'ai déjà travaillé sur des pubs pour le Maroc, par exemple, qui sont beaucoup plus en avance que nous, dans le sens où, pour les gens, que ce soit IA ou pas IA, c'est pas un problème. Et ton autre question, c'est la chute des prix, des tarifs,
oui,
c'est ça. Alors, oui, ça coûte moins cher l'IA générative, une production d'IA générative, mais à côté de ça, il faut pas penser que les gens payent un coût de production uniquement ou un temps mis à le créer, mais ils payent aussi un savoir-faire et voilà. Donc, alors oui, le tarif est plus bas.
Mais si tu payes pas l'expérience derrière,
oui, c'est
ça t'a pris 2 heures pour faire tel truc, mais il y a eu les 20 ans d'expérience derrière pour faire ça.
Oui, et aussi la partie savoir-faire, direction artistique, créativité, etc. Moi, je te dis encore une fois, j'ai une grosse société de production au Maroc qui m'a contacté parce que pourtant ils ont des personnes très compétentes en interne qui font des spots publicitaires hallucinants et de très grande qualité. Mais ils ont pas la même patte que moi, donc j'interviens sur d'autres projets que eux, dans lesquels ils sont peut-être moins à l'aise.
C'est une patte d'expérience ou c'est une patte de culture ?
Culturelle, moi je dirais. Complètement, oui. Culturelle de personnalité. Tous les créatifs ont leur personnalité, leur mood, c'est ce que j'appelle la direction artistique. Enfin, qu'on appelle la direction artistique et la sensibilité. Je suis très à l'aise dans des domaines et dans les d'autres pas du tout. On me demanderait de faire une pub sur un match de foot, c'est pas trop mon truc. Tu vois, voilà.
C'est vrai que c'est une question qui peut être un petit peu sensible, mais en termes de production pure, combien ça te coûte actuellement de produire une minute de film? Sachant qu'une fois que tu as trouvé le bon angle, trouvé le bon script et tout ça, en termes de rendu pur, combien ça te coûte à peu près?
Alors, tu parles financièrement?
Oui.
Une minute, déjà, je trouve ça très long. Je travaille pas sur une minute, c'est que des formats courts de spot pub.
Bon, alors, prenons un spot pub de 26 secondes.
Ça dépend du temps que je vais y passer. Parce que si tu veux, c'est comme les gens qui me demandent combien ça coûte de faire un clip. Ça dépend ce que tu mets
en termes de rendu.
Mais non, mais par exemple, si tu me demandes, par exemple, je dis n'importe quoi, un truc, je sais pas. Si je veux, par exemple, si je prends l'exemple, j'ai fait l'intérieur d'un avion, ça m'a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que il fallait que le design des sièges elle soit parfaitement respecte parfaitement le design. Donc il a fallu alimenter avec des tas de sources de photos, d'images, etc. dans tous les axes. Donc ça a pris du temps. Après j'ai fait une autre pub avec des jus de fruits qui éclatent, des fruits, des ananas, etc. Ça prend moins de temps qu'un projet comme ça. Donc c'est très difficile de dire combien ça me coûte à moi. Ça me coûte le prix d'un abonnement. Mais par contre, en termes de temps, c'est fonction du projet sur lequel je dois travailler.
Bien évidemment. Et puis, il y a les validations avec les clients, si tu es dans une charte graphique et tout ça, imposé et tout le reste.
Et puis même, chaque projet pour l'instant qu'on m'a demandé en IA était un problème en soi et qu'il fallait que à chaque fois, j'apprenne un autre workflow, un autre outil. Tu vois, là, je te dis, on m'a demandé dernièrement de créer peut-être un spot publicitaire d'une future école. Il va falloir que je maîtrise cet outil-là, enfin ce fonctionnement-là, cette manière de créer des images qui n'a rien d'artistique hein, par rapport à un autre projet. Donc, à chaque fois, je repars à zéro. Je pars d'une copie blanche.
Et si jamais les tarifs d'abonnement aux outils de génération par IA explosent, ce que tout le monde attend, ce que les financiers même qui prêtent à des sociétés qui sont spécialisées ou même Oracle qui construit les data centers pour les principaux moteurs de rendu attendent, si ces tarifs-là explosent, largement au-delà de ce que tu paies actuellement, comment penses-tu pouvoir te retourner ? À te remettant à tourner ?
Non, je resterai sûr de l'IA. C'est malheureusement une fois qu'on a goûté à ça, c'est un peu comme quand t'achètes des chocolats Lindt et que tu vas acheter des chocolats chez un grand chocolatier. Si tu veux, ça n'a rien à voir. Alors, enfin, je fais un parler qui est un peu bizarre, mais comment t'expliquer ? Je vois la difficulté que c'est le tournage traditionnel en termes de pré-production sur le tournage. La post-production, c'est extrêmement complexe et chronophage et prise de tête entre guillemets, hein, pour prendre cette expression. Et en plus, autre problème, une fois que c'est tourné, on ne peut plus revenir dessus, tu vois. Et on peut
difficilement,
pas. Ah non, mais c'est terminé. Puis une journée de tournage, c'est un coût qui est extrêmement important. Et si jamais quelque chose ne fonctionne pas et qui n'a pas bien fonctionné, si tu dois le retourner. C'est pas bon. Et puis tu perds ta crédibilité en tant que professionnel. Tandis que l'IA, quand même, ça la touche pomme Z pour les gens qui utilisent le Mac hein, ou Ctrl Z voilà, sur ton PC. Donc c'est fantastique. Et puis tu peux tester des trucs, faire des expériences, dire ouais, je vais tester un autre truc. Voilà. Je trouve ça incroyable. C'est une facilité. Voilà. Ça me serait difficile de revenir en arrière. Je continue à faire de la prod traditionnelle, mais en mode low cost, je veux dire, avec des iPhones ou des outils beaucoup plus légers, plus faciles. Mais franchement, l'IA, pour moi, c'est le début d'un truc incroyable. Hein. Voilà.
Jean-Louis Cruz, merci d'avoir bien voulu venir pour en parler et de t'être ouvert quand même avec beaucoup de franchise sur le domaine, ce qui est pas évident, je suppose, dans ton domaine par rapport justement à ce que tu as connu professionnellement avant. Et pour cela, je te remercie 100 000 fois.
Je t'en prie. Merci Dasrich pour l'invitation. J'étais ravi de passer ce moment avec toi et avec les auditeurs.
C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Intelligence Artificielle, release EX240, l'IA fait son cinéma, seconde partie. Cette release, l'équipe est composée de Dasrich, Chief Imaging Officer, la release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/240. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h pour tout à fait autre chose.
Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi. Nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et je suis sûr que ça ne va pas parler d'IA. Ouf, ou pas. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur Internet.